le magazine des Nations Unies.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au magazine des Nations Unies. Et voici tout de suite les principaux titres de cette édition. Le directeur régional et représentant en Afrique centrale de l'UNESCO en visite en République démocratique du Congo, c'est pour voir comment renforcer les capacités des jeunes, même des coins reculés de la RDC, dans la production et la consommation de l'information sur divers supports de communication et dans les radios communautaires. Mercredi dernier, Paul Raymond Couster était dans les locaux de Radio Capi. Vous le suivrez dans cette édition au micro de Jean-Marc Omatwaki. Des prisons pour femmes en RDC, c'est l'un des objectifs du gouvernement dans le cadre de la réforme de la justice et de la promotion du genre dans le système pénitentiaire du pays. C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre de la Justice à l'occasion de la retraite des conseillères de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO à Kinshasa. Une retraite de 5 jours dont un des objectifs était de définir une stratégie pour la contribution à la promotion du genre en milieu carcéral de la RDC. Enfin, violence basée sur le genre, mise en œuvre par le PNUD dans un projet portant sur les mesures préventives et les réponses holistiques en vue de la consolidation de la paix dans les régions affectées par les conflits. Le ministère du genre, famille et enfants est impliqué dans ce projet en partenariat avec l'UNFPA et l'agence coréenne COICA. C'est cela, le menu de cette édition dont vous allez suivre tout de suite le développement.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une fois encore, bonjour et bon dimanche chez vous. Production et consommation de l'information sur divers supports de communication et radio communautaire avec et pour les jeunes de tous les coins des recoins de la RDC, c'est l'un des défis que tient à relever l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ce qui justifie la visite cette semaine à Kinshasa du nouveau directeur régional et représentant en Afrique centrale de l'UNESCO, Paul Raymond Couster. Mercredi 12 octobre, Paul Raymond Couster était dans ce cadre dans les locaux de Radio Capi. Il s'est exprimé au micro de Jean-Marc Omatwaki.
Nous avons près de 400 radios communautaires soutenues par l'UNESCO au Cameroun. Nous avons un programme qui monte sur le Gabon et nous voulions voir l'expérience de Radio Capi, son évolution au cours de, je crois, c'est à peu près 20 ans d'âge. Et notamment comment elle arrive à toucher un public jeune et à utiliser le lien avec le digital, avec les nouvelles manières de consommer, mais surtout de produire, parce que nous ne voulons pas que l'information soit un produit de consommation. Mmh. Nous voulons que l'information soit vécue, crue et coproduite par celle et ceux à qui elle bénéficie. Nous faisons partie de la famille des Nations Unies. À l'intérieur, l'UNESCO est peut-être beaucoup plus connue du grand public pour le patrimoine mondial de l'UNESCO, la partie culturelle. Hein. On songe notamment à l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'humanité. Peut-être oublie-t-on que l'UNESCO, c'est d'abord le plus gros programme, c'est l'éducation, et donc l'appui à l'objectif de développement durable numéro 4, d'une éducation de qualité pour toutes et pour tous.
La construction des prisons pour femmes et le recrutement des personnels pénitentiaires féminins figurent parmi les réalisations que le ministère de la Justice de la RDC compte obtenir dans le cadre de la promotion du genre. C'est ce qu'a affirmé le vice-ministre de ce département mardi 11 octobre 2022 à Kinshasa, à l'ouverture de la retraite des conseillères de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Le vice-ministre de la Justice a reconnu que le système pénitentiaire du pays présentait beaucoup de lacunes en matière de genre que le gouvernement tient à corriger dans le cadre de la réforme de la justice en général et de l'administration pénitentiaire en particulier. Un extrait de ses propos recueilli par Honoré Missenga Kalala.
Le diagnostic national en matière pénitentiaire fait ressortir beaucoup de manquements. Je citerai entre autres les faibles effectifs du personnel pénitentiaire féminin et leur accès aux différents postes de responsabilité, l'absence de prisons pour femmes, des quartiers pour femmes dans les établissements pour hommes, femmes enceintes, allaitantes et accompagnées de leurs bébés, enfermées en commun avec leurs autres codétenus, n'étant pas dans la même situation J'en passe car la liste est loin d'être exhaustive. Partant de ces données, il est indispensable de prendre en considération la question du genre dans les établissements pénitentiaires du pays.
Prévention et réponse holistique aux violences basées sur le genre pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par le conflit en RDC 2021-2022. Il s'agit d'un projet mis en œuvre dans les provinces de Kinshasa, Sud-Kivu et du Kasaï central par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et l'agence coréenne COICA. C'est aussi en partenariat avec le ministère du genre, famille et enfants. Kelly Yoka, reportage.
Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD ainsi que l'agence coréenne KWASA unis contre les violences basées sur le genre en RDC. Ce projet de lutte contre la violence basée sur le genre aura pour zone d'intervention Kinshasa, Sud-Kivu et Kasaï central. Joseph Ezoa, représentant du PNUD, explique le choix de ces trois provinces.
Vous savez que ces trois territoires ont été choisis en fait sur la base d'une analyse qui montrait que la prévalence en fait de ce fléau était beaucoup plus prononcé dans ces régions. Et au fur et à mesure, nous pensons que ce dispositif va se déployer sur l'ensemble du territoire.
Pour la ministre du genre, famille et enfants, Gisèle Ndaya, les violences basées sur le genre sont à éradiquer sur l'ensemble du pays.
C'est un protocole que nous avons initié depuis le mois d'octobre de l'année passée. Nous voulons assez qu'on puisse éradiquer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo les violences basées sur le genre.
Ici est de noter que le projet prévention et réponse holistique aux violences basées sur le genre pour la consolidation de la paix en RDC 2021-2026 a obtenu un financement à 8,6 millions de dollars via l'agence coréenne KWASA.
D'un projet à un autre, refermons cette page avec ce projet d'assistance humanitaire en faveur des populations du Nord et du Sud Kivu. Un projet lancé lundi 10 octobre 2022 à Kinshasa par l'Initiative africaine pour l'aide d'urgence et de développement, AIRD, un projet qui porte sur l'assistance en abri, eau, hygiène et assainissement. Parmi les partenaires présents à la cérémonie, le HCR, parce que le projet vise aussi l'amélioration des conditions de vie des déplacés internes, en plus des populations hôtes de ces deux provinces. Abraham Kone, directeur pays de l'AIRD, en a expliqué l'intérêt ainsi que les réalisations attendues dans la mise en œuvre de ce projet. Il est au micro de Jean-Pierre Ilali Koko.
Ce projet est au bénéfice de la population retournée, déplacée et la population hôte. Ce projet va améliorer les conditions de vie de nos bénéficiaires et aussi le projet a comme activité la construction des abris, 3000 abris dans les deux provinces. Nous avons aussi la construction des 10 forages dans les deux provinces et aussi nous avons la partie formation des jeunes qui vont bénéficier de ce projet. Et avec les 10 forages, les bénéficiaires vont être environ de 30 000 personnes. Donc ce projet, vraiment, on souhaite que ça atteigne la population cible, surtout les vulnérables, parce que c'est quelque chose qui va aider. Les bénéficiaires de la construction des abris, nous avons 18 000 personnes.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'expression « système alimentaire » désigne l'ensemble des étapes nécessaires pour nourrir une population. Ces étapes sont cultiver, récolter, conditionner, transformer, transporter, commercialiser et consommer. Dans un entretien accordé à Radio Kapi, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, Aristide Ongone Obame, a justement parlé des systèmes alimentaires qui ont fait recette dans certains pays du monde. Il a surtout insisté sur le financement et la priorisation de l'agriculture en RDC comme condition essentielle pour renforcer le système alimentaire congolais. Aristide Ongome Obame répond aux questions de Jean-Pierre Ilali Koko.
Monsieur Aristide Ongone Obame, bonjour.
Oui, bonjour.
Que peut-on retenir des systèmes alimentaires?
Très simplement, les systèmes alimentaires, dans un premier temps, on va commencer par regarder les étapes. Les étapes du système alimentaire, c'est toutes ces étapes qui concourent à la bonne alimentation d'une population. On part de l'étape de la culture, comment cultiver. Pendant cette étape, on va arriver à ce qu'on appelle la récolte. Après la récolte, il y a le conditionnement. Le conditionnement, après, va suivre la transformation. le transport, la commercialisation et la consommation. C'est toutes ces étapes-là qui composent ce qu'on appelle le système alimentaire, mais il n'y a pas que ça. Pendant ces étapes, on va utiliser un certain nombre d'intrants. Ça peut être des semences, ça peut être des outils agricoles, ça peut encore être des fertilisants ou autres. Et nous utilisons aussi ce qu'on appelle les services, les institutions, pour effectivement voir comment ces systèmes alimentaires fonctionnent. C'est toutes ces interactions. On va aussi regarder l'impact de toutes ces étapes sur l'environnement. Est-ce que ça dégrade la santé de l'environnement? Et c'est tout ça. Il faut que on arrive in fine à produire suffisamment d'aliments sains pour nourrir la population sans dégrader l'environnement.
Nous avons appris qu'un processus d'évaluation du système alimentaire de la République démocratique du Congo a été réalisé par le gouvernement en partenariat, bien sûr, avec l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO que vous représentez ici, et les centres français de recherche agronomique et de coopération internationale, CIRAD en sigle. Quel a été l'objectif de ce processus?
Alors, ce processus, je confirme, il a été mené effectivement avec toutes ces institutions qui ont accompagné le gouvernement de la RDC. Ce processus d'évaluation avait pour objectif de voir pour 50 pays, parce qu'il y a 50 pays qui avaient été retenus, pour parler simple d'état de santé de ces systèmes alimentaires dans ces différents pays. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? On est à quel niveau? Quels sont les défis? Et où est-ce que ça coince? Où est-ce qu'on sent les goulots d'étranglement? Où sont les faiblesses? Et bon, on va directement aller à la RDC. En RDC, nous avons relevé, premièrement, que malgré le potentiel que vous connaissez, autour de 80 millions de terres arables, tout le monde connaît ce chiffre-là, il est très élevé, nous avons, première chose, constaté que la RDC peine, malheureusement, à nourrir sa population. L'orientation qui avait été donnée, et à Malabo, par tous les États de l'Union africaine, c'est de mettre au moins 10% de leur budget national pour développer ce secteur. Si nous revenons en RDC, nous sommes aujourd'hui à peine autour de 3%. À peine.
De financement.
De financement dans le secteur.
Mais là aussi, quand vous parlez de financement, je vois non seulement l'État congolais qui doit dans son budget national prévoir un pourcentage conséquent pour l'agriculture, mais aussi de l'apport extérieur, et notamment de la FAO.
Je vais être franc avec vous. Un pays se développe effectivement avec des apports extérieurs, mais pas seulement avec ça. Aucun pays ne se développe seulement avec des apports extérieurs. Et puis ceux qui viennent comme des partenaires et qui font ces apports extérieurs dont vous parlez, regardent un peu quelles sont les priorités du pays. Les gens viennent vous appuyer en fonction des priorités que vous indiquez. Un pays est souverain. Un pays écrit son développement. Et les partenaires viennent l'accompagner. Ce n'est pas les partenaires qui viennent décliner une politique de développement d'un secteur. Par conséquent, le début, c'est est-ce que le secteur agricole est prioritaire? Si oui, c'est là où vous aurez beaucoup d'apports extérieurs. Sinon, mais pourquoi voulez-vous que les partenaires viennent investir dans un secteur qui n'est pas prioritaire pour vous? Alors, l'indication, c'est ce niveau, cette orientation des 10%. C'est ça qui va nous dire, en tant que partenaire, que ce secteur est prioritaire. Mais tant qu'on est à 1, 2, maximum 3%, et quand on regarde le budget du pays, c'est clair que, dans les faits, ce n'est pas encore priorité.
Nos nouvelles en plus bref, allons d'abord en Ituri. Cette province est dotée d'un plan opérationnel des activités du programme DDRCS, désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Ce plan a été validé en début de semaine par le gouvernement provincial en partenariat avec la MONUSCO, la mission onusienne qui a par ailleurs promis un appui logistique et financier pour la réussite de ce programme. Et renforcer les instances de gouvernance et les mécanismes de gestion publique axés sur les résultats, c'est le thème du forum sur la gouvernance en RDC qui s'est tenu du 11 au 12 octobre 2022 à Kinshasa. Un forum qui s'est inscrit dans le cadre du programme intégré d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale ainsi qu'à la planification du développement. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'est associé à cette activité initiée par le ministère du Plan en collaboration avec la vice-primature de l'Intérieur avec l'appui financier du Royaume de Suède. Bouclons cette page en nous rendant à New York où le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a plaidé en faveur d'une aide au développement durable pour l'Afrique. Cela en vue de s'attaquer aux causes profondes des conflits. C'était à l'occasion du 20e anniversaire de la création de l'Union africaine. Le secrétaire général de l'ONU en a profité pour saluer la collaboration entre l'Organisation mondiale et l'Union africaine comme pierre angulaire du multilatéralisme. Il s'est néanmoins inquiété de la résurgence des conflits, des impacts du changement climatique et de la guerre en Ukraine sur le continent africain, pour lequel il a requis une aide massive au développement.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies revient sur l'interview de Lord Tariq Ahmad, ministre d'État aux Affaires étrangères et développement du Commonwealth et envoyé spécial du Premier ministre du Royaume-Uni pour la prévention de la violence sexuelle. L'homme d'État britannique était en visite de travail en RDC, une visite qui l'a conduit à Bukavu ainsi qu'à Kinshasa. Suivez donc Lord Tariq Ahmad qui répond aux questions de Jean-Pierre Elalé Coco.
Monsieur Lord Tariq Ahmad de Wimbledon, bonjour.
Bonjour.
À Bukavu, vous avez visité l'hôpital de Panzi du docteur Denis Mukwege. Vous avez rencontré les officiels congolais ici, même à Kinshasa, à commencer par le président Félix Tshisekedi. Que peut-on retenir de vos entretiens et de l'objet même de votre visite?
Tout
d'abord, ce fut un plaisir de visiter la RDC pour la première fois avec Sa Majesté la Comtesse. Puis c'était essentiellement pour aborder les questions liées aux conflits et aux violences basées sur le genre et consorts. Comme vous savez, le Royaume-Uni est à l'avant-garde, chef de file au fait, de toutes ces initiatives au niveau mondial. Il doit tourner autour de ça essentiellement. Nous avons eu l'opportunité de visiter l'hôpital de Panzi avec le docteur Mukwege et également visiter les autres survivants. C'est vrai que le défi demeure ici en RDC par rapport aux différentes formes de violence. Mais nous avons de l'espoir et cet espoir nous vient essentiellement des survivants. Nous avons également eu l'opportunité de rencontrer Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, président de la RDC, mais nous avons aussi rencontré le ministre du Genre, Famille et Enfants, ministre de la Justice. C'était des discussions bilatérales très fructueuses. Nous avons aussi discuté du renforcement du rôle même que le Royaume-Uni joue dans toutes ces initiatives.
Votre pays a accordé en 2019 2,7 millions de livres sterling au Global Survivor Fund du docteur Mukwege. Trois ans après, les besoins se sont accrus, certes. Votre pays, vous l'avez dit, apporte son soutien à la lutte contre les violences sexuelles. Quelle a été votre contribution lors de cette visite en termes, bien sûr, d'appui de la lutte contre ce fléau dans l'est de la RDC?
The Panzi Hospital, indeed.
Pour ce qui est de l'appui que le Royaume-Uni apporte à Panzi, c'est vrai que même les premiers bâtiments de Panzi ont été construits sur le fond du Royaume-Uni. Nous avons apporté un financement initial de 1 million, mais comme vous l'avez dit, c'est allé jusqu'à 2,7 millions de livres. Nous apportons non seulement un appui technique sur une variété de sujets, mais également pour tout ce qui concerne la justice, la redevabilité. Il y a plusieurs initiatives que le docteur Mukwege est en train de chapeauter. Notre appui se résume en appui technique.
Et l'ancien président français François Hollande, en visite à Bukavu dernièrement, a déclaré, je cite, « On parle le moins des violences sexuelles commises en RDC. La Grande-Bretagne organise, comme vous le savez, en novembre prochain, une conférence sur les violences sexuelles dans les zones à conflit. Que peuvent alors espérer les victimes de ces violences en RDC à cette rencontre, monsieur le ministre?
Ce qu'il faut savoir, c'est que le Royaume-Uni est en tête de cette initiative, de cet agenda depuis plus de 10 ans. Ce sur quoi je travaille personnellement, c'est les aspects préventifs. Nous savons que la violence sexuelle est très tragique et c'est utilisé comme une arme de guerre, non seulement en RDC, mais également dans les régions du Sahel,
en Ukraine
également. Le Royaume-Uni est le seul pays à avoir un envoyé spécial qui s'occupe de violences sexuelles et violences basées sur le genre. Je suis moi-même ministre des Affaires étrangères et du Développement, mais en plus de cela, j'ai aussi cette responsabilité-là de pouvoir porter haut ce message. Nous travaillons avec les Nations Unies, mais nous travaillons également avec la RDC, avec un focus particulier sur les survivants. Les solutions ne viendront qu'avec la participation et l'implication des survivants, mais il faut également une volonté de la part de la communauté.
Pour terminer, la RDC accuse le Rwanda, aux pays membres du Commonwealth, de l'agresser à travers les M23. Quelle pourrait être la contribution de la Grande-Bretagne, votre pays, pour pacifier les relations entre les deux pays?
We have very strong relations with near neighboring countries.
Nous avons de très fortes relations avec les pays frontaliers à la RDC. Ces questions discutées de manière très claire. Le Rwanda le reconnaît que la sécurité, la stabilité est ce qu'il faut pour la région, non seulement pour les pays environnants. Nous comptons également sur un effort concerté des autres pays d'influence comme la France. L'objectif ultime ne doit être que la paix. Et cette paix-là est positive pour le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, et ainsi de suite, mais avec un focus particulier sur la prospérité.
Monsieur Laure Otari Kamad, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Le Maniema est entré depuis mardi 11 octobre dernier dans la deuxième phase de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a donné un coup de pouce à cette campagne en dotant la province d'une douzaine de motos pour assurer le transport des vaccins dans les coins reculés. Florence Kizalunga a couvert pour nous la remise de cette donation de l'UNICEF à la division provinciale de la santé à Kindu. Reportage.
Ces dons de l'UNICEF, constitués de 8 motos de marque Aujoué et 4 motos de marque Star, est destiné aux zones de santé de Punia, Ferekeni, Obokote et Lubutu. Le choix de ces zones de santé se justifie par l'impraticabilité des routes, a fait savoir le coordonnateur PEV Maniema, Dr John Kaozi.
Dans ces 4 zones de santé, parce que l'approvisionnement est souvent difficile pour atteindre les normes Maniema, en fait ce sont des approvisionnements qui se font par moto, comme les véhicules n'arrivent pas. C'est comme ça qu'on a demandé d'abord les motos pour ces 4 zones de santé et peut-être que nous allons passer à une autre phase où on demandera des véhicules pour aligner dans les différents axes pour aller à Kasongo, axe Kibombo et ainsi de suite.
Pour l'UNICEF, à part le transport des vaccins Covid, ces motos serviront à d'autres activités de routine du programme élargi de vaccination. Docteur José Changa.
D'ici là, la campagne va commencer la vaccination contre la Covid et qu'il y a des vaccins à transporter vers le nord. Et compte tenu des difficultés de la route, on a pensé qu'il fallait doter ces zones-là de motos pour faciliter le transport de ces vaccins. En même temps, ces motos vont servir de continuer à transporter les vaccins dans le cas des PEV de routine.
Rappelons que le coût total de cette donation est de 17 400 dollars américains selon les donateurs. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Pourquoi le HCR devrait procéder à la relocalisation des réfugiés burundais du centre de transit de Kavimvira et de ceux du centre de transit de Mongimongi vers le camp de Mulongwe à Aziz au Sud Kivu? La chef de bureau UNHCR Sud Kivu, Nadine Njoya, a répondu à cette interrogation au micro de Fiston Goma. Suivez.
On s'est rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup de malentendus. Ce que nous transportons pour le rapatriement, ce sont des réfugiés, des personnes qui ont fui leur pays parce qu'il y avait des problèmes de sécurité. Et ce sont ces personnes que nous transportions pour leur permettre de rentrer dans leur pays. Vous avez accueilli ces personnes-là ici lorsqu'elles étaient en difficulté. Vous avez eu de très bonnes relations avec ces réfugiés. Maintenant, certains souhaitent partir. Ce serait bien que vous puissiez leur faire vos adieux de manière aussi pacifique que possible.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Deux dates à retenir pour la semaine qui commence le 17 octobre, journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, et 20 octobre, journée mondiale de la statistique. Et fin de cette émission à retrouver sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, Radio Capi en un seul mot. Merci de votre attention. Merci également à Polydor Baslunga qui a assuré la coordination technique de cette émission. Je suis Babel Pongo-Massimango. C'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinga Kalala. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix. Quant à l'équipe de MacUN, elle vous fixe un nouveau rendez-vous et dimanche prochain. Portez-vous bien.